Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ça va être de plus en plus dur, c'est-à-dire que ce que je mettrai pour l'essence pour aller travailler, ben, je diminuerai peut-être le chauffage, je diminuerai peut-être l'alimentation. Je suis obligée.
L'inquiétude des automobilistes ce soir, alerte à la pompe, les prix vont grimper 2 € de plus par plein d'ici quelques jours sur fond de nouvelles tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
On vous explique tout hein, justement dans un instant, on en parle également ce soir avec les grandes voix à 18h30. On vous attend nombreux au 39-21.
À la une également, avocats, médecins, infirmiers par milliers dans la rue.
Tous ensemble, blouse blanche, robe noire, uniforme, nous disons non, non, non.
Les professions libérales mobilisées pour sauver leur régime de retraite.
La rentrée des parlementaires de la majorité réunie pour un apéro de la cohésion avec un invité surprise, Emmanuel Macron.
Dans ce journal également, elle porte plainte contre Jean-Yves Le Drian. Plusieurs familles demandent au ministre des Affaires étrangères de rapatrier les femmes et enfants de djihadistes retenus en Syrie.
Et puis tout autre chose, le retour des bleus du basket même.
Je suis trop content, franchement, la Chine, j'en pouvais plus. Ouais, franchement, je suis content d'être de retour. Hein.
Ça a été éprouvant, ce mondial en Chine. Médaille de bronze autour du cou quand même pour les basketteurs. La bourse de Paris en nette baisse ce soir dans le contexte international lié au pétrole, moins 0,94% à 5602 points.
La tendance météo, Anissa.
Demain, encore des températures estivales, du soleil presque partout.
Et je crois que c'est comme ça toute la semaine.
Oui, exactement.
Europe 1.
C'est une guerre qui peut nous paraître très lointaine, l'Arabie Saoudite contre des rebelles au Yémen soutenus par l'Iran. Mais une guerre qui a donc des effets très concrets sur notre quotidien. Des attaques ce week-end sur 2 sites pétroliers saoudiens, parmi les plus gros du monde. Et voilà que les cours du pétrole flambent, plus 10% aujourd'hui pour le baril de brut à la pompe. Ce n'est qu'une question de jour, d'où l'inquiétude des automobilistes.
Je suis un peu dépité. Vous êtes dans votre voiture, puis vous dites, bon bah voilà, ça continue quoi.
Là, je suis venu cet après-midi avec cette voiture. Je vais peut-être revenir avec l'autre après pour anticiper un petit peu la hausse et avoir l'essence un peu moins chère. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de s'y plier.
Ça paraît rien, mais bon, je fais un plein tous les 15 jours. Ben, 400 centimes, c'est un véhicule qui demande 72 litres d'essence. Ben, c'est pas rien au final.
Ça va être de plus en plus dur. C'est-à-dire que ce que je mettrai pour l'essence pour aller travailler, ben, je diminuerai peut-être le chauffage, je diminuerai peut-être l'alimentation. Je suis obligée.
Témoignage recueilli près d'Evreux par Johanna Chabas.
Bonsoir, Maud Descamps.
Bonsoir.
Alors, est-ce qu'on sait de combien cela va augmenter et quand ?
Eh bien, écoutez, il faut s'attendre à une hausse de 4 à 5 centimes sur le litre d'essence et de gasoil. Sur un plein, ça fait quand même près de 2 euros. Et cette hausse, elle devrait intervenir là, dans les prochains jours. C'est ce qu'affirme l'UFIP, l'Union française des industries du pétrole. Pourquoi une telle augmentation ? Eh bien, c'est mathématique. À cause de l'attaque des installations en Arabie Saoudite, le pays a dû réduire de moitié sa production. Il y a donc moins de pétrole sur le marché et donc les prix du baril de brut augmentent. Et en bout de chaîne, c'est nous, consommateurs, qui subissons cette hausse à la pompe. Sur un litre d'essence à 1,50 €, la matière brute, ça représente environ 50 centimes. Le reste, ce sont des taxes. Donc, quand le prix du brut augmente, eh bien, c'est un tiers du prix à la pompe qui subit cette hausse.
Merci Maud Descamps. On en reparle d'ailleurs de ce sujet avec les grandes voix. Je vous signale ce soir à 22h20 sur Europe 1, Emmanuel Dutheil. Il recevra Francis Duzeux. C'est justement le président de l'Union française des industries pétrolières à laquelle vous faisiez référence. Et vous pouvez nous contacter, bien entendu, au 39-21.
Et les tensions ne...
Il est 18h03, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et les tensions ne retombent pas dans cette région du Golfe Persique. Les rebelles yéménites lancent menacent de lancer de nouvelles attaques. Hier, Donald Trump s'est dit prêt à riposter et l'Iran a à nouveau saisi aujourd'hui un navire dans le détroit d'Ormuz. L'Union européenne appelle ce soir à la retenue.
Et c'est notre grand titre ce soir, une mobilisation complète inédite et plutôt hétéroclite hein, aujourd'hui dans la rue.
Et des robes noires et des blouses blanches, des milliers d'avocats côte à côte avec des médecins, des infirmiers, des kinés, des orthophonistes, les professions libérales, mais aussi les pilotes de ligne, les hôtesses et les stewards. Ils venaient de toute la France aujourd'hui faire bloc contre la réforme des retraites qui prévoit de dissoudre leurs différents régimes, ce qui doublerait pour certains leur niveau de cotisation. D'où la colère de cette avocate Christelle Jousse. Elle est bâtonnier du barreau de Châteauroux.
Il y a beaucoup d'avocats, contrairement aux idées reçues, qui ne sont pas des nantis et qui vivent avec des revenus d'un cadre moyen. Ça veut dire en effet que si on double les cotisations, ces cabinets sont affaiblis. Si on affaiblit les petits cabinets des barreaux de province, eh bien on affaiblit la justice proche du citoyen, tout simplement.
Vous, par exemple, comment ça se passe dans l'Indre ?
Et nous travaillons au quotidien avec des gens qui viennent à nos cabinets, qu'on aide parfois de manière gratuite ou avec l'aide juridictionnelle. Donc c'est cette justice de proximité qu'on met clairement en péril en augmentant nos cotisations, alors non pas de quelques milliers d'euros, mais en les doublant effectivement, on affaiblit directement ces petites structures.
Vous pensez que dans un département comme l'Indre, un certain nombre de cabinets pourraient mettre la clé sous la porte avec cette réforme ?
Ça peut mettre en péril clairement les trésoreries qui sont déjà affaiblies par des réformes successives qui visent à affaiblir le recours du justiciable à la justice et aux juges, tout simplement.
Christelle Jousse, bâtonnier du barreau de Châteauroux avec Olivier Samin.
La réforme des retraites, gros, gros sujet de la rentrée politique et gros sujet de l'apéro de rentrée des parlementaires de la majorité.
Ils sont tous invités ce soir dans les jardins du ministre des Relations avec le Parlement. Adrien Beck, vous y êtes et on comprend l'enjeu de la rencontre quand on voit qui s'est invité au tout dernier moment, mais c'est le président de la République.
Oui, et c'est d'ailleurs un bon indicateur de l'attente des parlementaires. L'annonce de la présence d'Emmanuel Macron la semaine dernière a fait bondir le nombre de participants, quasiment les deux tiers des députés et sénateurs En Marche, qui arrivent d'ailleurs ici petit à petit. Une trentaine de ministres annoncés aussi, dont Édouard Philippe. Le chef de l'État lui arrivera dans une grosse heure. Il ne sera évidemment pas question pour lui de viser autour des petits fours, car la majorité connaît sa première grosse zone de turbulence. Turbulence, dixit un cadre marcheur entre les municipales, l'affaire Ferrand, le débat sur la bioéthique, celui sur l'immigration prévu fin septembre. Sur le sujet, la majorité se déchire, assure avec inquiétude un député. Alors Emmanuel Macron, par les mots qu'il prononcera, aura pour tâche de remettre tout le monde d'accord. Il est le seul dénominateur commun, observe un conseiller ministériel. Mais attention, certains députés attendent aussi Emmanuel Macron de pied ferme sur le sujet précisément de l'immigration. On aimerait de la clarté, demande un député, alors qu'on évoque en ce moment le sujet des quotas et que l'exécutif ne dément pas vouloir réviser l'aide médicale d'État.
Adrien Beck au ministère des Relations avec le Parlement. Beaucoup de sujets, en voici un autre aujourd'hui. Ce sont les agents des impôts qui étaient en grève un peu partout en France. Cette fois, ce n'est pas la réforme des retraites, mais ils protestent contre les 4800 suppressions de postes annoncées et la fermeture d'un millier de trésoreries.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, la PMA et les questions bioéthiques au menu ce soir, des évêques de France réunis justement à Paris.
Et puis des familles qui portent plainte contre Jean-Yves Le Drian et l'accusent de mettre en péril des femmes et enfants français des djihadistes en refusant de les rapatrier de Syrie. Nous passons le coup de fil du 18h à leur avocate dans une minute.
Et votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe. Sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Ce sont des questions, on le sait, sur lesquelles l'Église est toujours particulièrement mobilisée. La bioéthique, la fin de vie et bien sûr la PMA, la procréation médicalement assistée. On y reviendra à 18h20 avec mon invité d'ailleurs, Monseigneur Pierre Dornelas, avec qui on sera en direct. Et Sébastien, ils discutent, les députés, de cette future loi en ce moment.
Voilà, et au même moment, les évêques de France sont réunis au Collège des Bernardins à Paris. Bonsoir Virginie Riva.
Bonsoir.
Ils révèlent ce soir leur position sur ces lois bioéthiques avec finalement pas mal de prudence.
Oui, la conférence des évêques de France a même produit un document pour dévoiler ses arguments. 16 interpellations adressées aux parlementaires. L'Église veut notamment pointer ce qui est pour elle un paradoxe dans ce projet de loi. Le fait d'autoriser la PMA sans père et en même temps de permettre à l'enfant d'avoir accès à ses origines à 18 ans. Preuve, selon elle, que connaître son géniteur est nécessaire pour se construire. Autre question qui lui tient à cœur, comment faire en sorte que la GPA, le recours aux mères porteuses, ne soit jamais légalisé? C'est une question annexe puisque, je le rappelle, la GPA n'est pas dans le projet de loi. Le mot même n'y figure pas. L'Église qui aborde aussi le risque d'eugénisme avec le diagnostic préimplantatoire, c'est le fait de tester un embryon pour savoir s'il a des maladies graves. Une question qui sera là effectivement en débat à l'Assemblée. Mais vous le disiez, l'Église est particulièrement prudente. Elle privilégie, dit-elle, le dialogue au combat. D'ailleurs, elle n'appelle pas officiellement à manifester le 6 octobre, jour de mobilisation de la Manif pour tous. Elle laisse, dit-elle, chaque chrétien face à sa conscience.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1 et donc Monseigneur Dornelas, dans maintenant 10 minutes archevêque et qui a dirigé ce groupe de travail de l'Église sur ces questions bioéthiques. On est à l'étranger maintenant.
En Tunisie, les résultats du premier tour de la présidentielle se dessinent et les partis traditionnels semblent écartés par deux candidats qui se revendiquent anti-système. Le constitutionnaliste Kaïs Saïed arrive en tête devant l'homme d'affaires toujours emprisonné Nabil Karoui. À ce stade, la moitié des bulletins ont été dépouillés.
Et nous en venons maintenant à la plainte déposée contre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Sébastien.
Plainte devant la Cour de justice de la République, compétente pour juger les ministres, est déposée par une dizaine de familles. Elle demande le rapatriement de leurs proches, des femmes de djihadistes et des enfants arrêtés pendant la guerre contre le groupe État islamique. Est toujours détenu dans des camps en Syrie. Nous nous y arrêtons un instant, c'est le coup de fil du 18h.
Bonsoir Maître Marie Dosé.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocate de certaines de ces familles. Pourquoi cette plainte contre le ministre lui-même aujourd'hui ?
Parce qu'en l'état, la décision de ne pas sauver ses enfants, la décision de ne pas les rapatrier, est constitutive d'une infraction pénale, d'une omission de porter secours. C'est une infraction prévue par l'article 223-6 du Code pénal. Pourquoi maintenant ? Parce que peut-être naïvement, j'ai cru que cet été, alors même que le ministre des Affaires étrangères était informé de la situation dramatique dans laquelle se trouvaient ses enfants et ses femmes, j'ai cru que cet été, des rapatriements seraient organisés. Je constate qu'il n'en est rien. 50 degrés sous les tentes. Un enfant français est décédé la semaine dernière. Il avait 12 ans. Cet enfant s'appelait Sofiane. À ce stade, c'est une omission de porter secours que de laisser ses enfants exposés à un risque de mort. La responsabilité pénale d'un ministre du gouvernement qui commet de tels actes dans le cadre de ses fonctions doit être pénalement réprimée.
Vous estimez que le gouvernement français met en péril ces femmes et leurs enfants. Pourtant, vous êtes bien d'accord quand même pour dire que ces femmes, elles sont parties de leur propre gré rejoindre Daesh en Syrie.
Ah oui, monsieur, tout à fait. Elles sont parties de leur propre gré en Syrie pour rejoindre Daesh. Ces femmes sont judiciarisées en France. Elles font toutes l'objet d'un mandat d'arrêt international. Alors, si la réponse aujourd'hui de la France, c'est de laisser mourir des femmes françaises qui sont judiciarisées en France et de faire payer leurs enfants alors qu'ils sont innocents par la faute de leur mère, très franchement, je ne comprends plus très bien la définition de la démocratie. Donc, ce qui est établi, c'est que depuis des mois et parfois depuis des années, ces femmes sont en détention arbitraire entre les mains de Kurdes, au Kurdistan syrien, elles ne sont judiciarisées nulle part, ni en Syrie, évidemment, ni ailleurs, sauf en France. Ce que demandent ces femmes, c'est aller en prison en France, payer ce qu'elles ont fait, payer pour ce qu'elles ont fait, et ce qu'elles demandent surtout, c'est que leurs enfants ne payent pas pour ce qu'elles ont fait, et donc qu'ils soient placés par l'aide sociale à l'enfance.
Merci beaucoup, maître Marie Dosé. Vous êtes l'avocate de certaines de ces familles donc, qui portent plainte contre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Merci à vous.
Il est 18h13 sur Europe 1, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Un juge qui estime légitime de décrocher le portrait d'Emmanuel Macron. Ça s'est passé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lyon. Décision surprise, la relaxe de ces deux militants qui étaient jugés pour avoir décroché le portrait du président. Pour eux, une action de désobéissance civile face à l'urgence climatique. Le juge a invoqué l'état de nécessité et un motif légitime. Et puis 4 ans de prison requis contre les deux gérants du bar Le Cuba Libre à Rouen. Ils étaient jugés pour un homicide involontaire après la mort de 14 personnes dans un grave incendie en 2016. Le procureur a pointé une somme de manquement en matière de sécurité. Le jugement sera rendu le 22 octobre.
Et puis on en revient à un autre incendie qui a frappé une maison de retraite. C'était la nuit dernière en plein Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale. Un résident centenaire est décédé. 2 femmes ont été grièvement intoxiquées.
Et d'autres résidents ont pu réintégrer l'établissement aujourd'hui. Jacques a eu très peur pour sa mère, hospitalisée après avoir inhalé des fumées.
Un accident, c'est toujours un accident. C'est très triste pour la personne, évidemment, qui est morte et ceux qui sont vraiment blessés. Que ça soit dû à un mégot ou à un court-circuit, ou, je veux dire, ça ne change rien au problème. Ce qu'il faut par contre, c'est que maintenant, effectivement, ils analysent bien de la situation pour faire en sorte que ça ne se renouvelle pas à ce niveau-là, en tous les cas.
Justin Morin, vous êtes sur place dans le 16e arrondissement. Ce matin, sur Europe 1, on entendait la maire du 16e qui évoquait l'hypothèse d'un mégot de cigarette mal éteint. Est-ce qu'on en sait plus ce soir? Que dit la direction?
Eh bien, pas de confirmation concernant les circonstances de l'incendie. En revanche, j'ai pu discuter hors micro avec 2 membres du personnel et ils m'ont bien confirmé que certains résidents prennent la liberté de fumer dans leur chambre et qu'il est bien difficile de leur refuser ce plaisir. Concernant le fonctionnement des détecteurs de fumée, cette fois, Jean-Christophe Romercy, le responsable de l'établissement, s'est montré très ferme.
Notre établissement est parfaitement aux normes, bien évidemment. Nos équipes parfaitement formées. Nous ignorons complètement aujourd'hui les événements survenus de cet incendie et nous réservons bien évidemment à l'enquête en cours nos réflexions.
De nombreux proches de résidents ayant passé la nuit sur place confirment en tout cas avoir été prévenus très rapidement après l'incendie.
Justin Morin dans le 16e arrondissement de Paris. Les sports, ils sont de retour, les héros du basket français.
De retour du mondial en Chine, médaille de bronze autour du cou. On retiendra évidemment leur victoire contre la Dream Team américaine. C'était en quart de finale. Semaine éprouvante, comme le raconte Evan Fournier, le meilleur marqueur des Bleus.
Je suis trop content, franchement, la Chine, j'en pouvais plus. C'était, vous savez, faire une compète, c'est long, mais en plus, on est parti 10 jours avant la compète pour se préparer pour le décalage horaire. Et donc, ouais, franchement, je suis content d'être de retour, ouais, clairement. Moi, j'ai jamais été fatigué comme ça. Quand tu es en compétition comme ça, tu es dans un focus, dans une concentration qui est extrême pendant 2-3 semaines où vraiment tu vis, penses et respires que basket et que performance. Donc là, c'est vrai que j'ai bien envie de lâcher prise. Quelque chose aussi débile que manger un petit McDo, se faire plaisir, prendre du foie gras, du vin. Voilà, des petits plaisirs quotidiens que tu fais pas quand t'es en compète, quoi.
Voilà, il va profiter de la France. Evan Fournier avec Christophe Lamarre.
Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve évidemment à 18h30 pour un nouveau point complet sur l'info, le temps avec Anissa. Bah on aime bien là ce qui se présente toute la semaine.
Ah, on aime bien, il y a encore beaucoup de soleil et de sécheresse malheureusement, parce que c'est vrai qu'on aime bien, mais ouais. C'est vrai qu'il y en a qui attendent la pluie avec impatience, bah ça sera pas pour cette semaine et ça c'est vraiment très embêtant. Alors au nord de la Loire demain, en Bretagne, en Île-de-France, en Bourgogne et en Alsace, là le ciel sera nuageux demain matin, des nuages qui seront de moins en moins épais au fil des heures et là vous aurez du soleil, hein, rassurez-vous. Dans l'après-midi, le soleil va briller sur toute la France. En Aveyron et en Midi-Pyrénées, il pourrait tomber quelques gouttes, mais c'est anecdotique, hein, ça sera vraiment très très léger. Sur les côtes aquitaines, la grisaille matinale va très vite laisser place au soleil. Les températures, bah, elles sont toujours chaudes. C'est vrai qu'avec tout ce soleil, demain ça grimpe. 9 à 19 degrés le matin de Nevers à Nice. Il fera 16 degrés au lever du jour à Paris. Demain après-midi, les maximales sont agréables au nord. 22 degrés à Caen, 24 à Paris, 26 à Besançon. Et au sud, ça chauffe encore. 32 à Bordeaux et Limoges, 34 à Carcassonne et Avignon, et jusqu'à 35 demain après-midi à Nîmes.
L'été qui se prolonge, merci Alexa.
Exactement.